Au fil des jours, il n'y eut plus que la voix de Cotta à la place de ses silences. Alors Anka réprouva le geste de sa mère, qui continuait à brûler les plantes pour, disait-elle, mieux ramasser et brider la raison éparse de son époux. Anka préférait son père déraisonnable. Que ne pouvait revenir le temps où sa parole venait en lambeaux, entortillée, pleine de nœuds, de telle sorte qu'elle interdisait de voir où elle voulait mener. À présent, elle n'était pas seulement abondante, mais d'une clarté éblouissante. Elle filait droit au but, soulignait les évidences, soupesait, mesurait, sondait le monde, et vous flanquait en pleine figure son horrible récolte, ce vomitif infect, servi à grande dose et qui, une fois bu, était encore à boire. Il fallait voir Cotta. Il n'avait désormais de fou que ses yeux enfiévrés de haine, et cette haine même trouvait un fondement. Il regardait la nuit. Elle était sale. Les étoiles qui l'accriblaient ne pouvaient pas grand-chose, ni la moitié de lune qui pendait comme une parole venue mal à propos. Rien à voir avec ces nuits de là-bas. Et sa mémoire se fracassait à force de ne pouvoir déboucher sur les gestes simples qu'elle appelait. La terre du père s'enfonçait à un coin dans sa chair. Elle gisait, la terre, en lui, intacte. Mais pourquoi leur rendez-vous ici, en ce lieu de crasse et d'excréments? Pourquoi, sous l'ombre de la menace, à cette heure tardive où elle faisait germer ce qu'elle devait ensevelir? Si c'était pour aiguiser son regard, alors qu'elle se taise. C'était déjà tout vu. Il savait comme d'éternité ce que voulait dire le vide. Cotta n'avait plus rien. Mais là n'était plus la question. Le tout était de savoir si ne plus rien avoir, c'est n'être rien. Cotta respirait et c'était puanteur. Il touchait et c'était visqueux. Et on voulait qu'il fasse comme si de rien n'était, qu'il dise que cette nuit à Némier en était une, parce que criblée d'étoiles avec la lune au milieu. On voulait qu'il prétende que cette nuit était la même qu'il éclaboussait de paix là-bas. Petite Venise grondait, c'était dans ses entrailles. Il s'écoutait. Comment fermer l'œil? S'habituer à la bouteille qui s'écrase et au cri qui suit. Sourd, étranglé, râle. Le voilà tout entier marre écarlate où un homme au balbutiement d'enfant se noie lentement. Maudit soit l'enfant de chien, qu'ils crèvent tous autant qu'ils sont. Ne savent rien d'autre, ces gens-là, rien d'autre que jouer du tesson et de la lame. Pour un oui, pour un non, ça s'égorge cordialement.
Mais t'es sûr, ta sœur, si y a ta sœur, je veux dire, même cul, même Bangala. Conseille ton père de ne plus me dire merci chaque fois que je travaille sur ta mère. Hein. Ça me coupe l'envie. Hein.
Cotta dit qu'il n'y a rien à craindre. À ce rythme, il y en a toujours un pour penser que la seule manière de mettre les choses au point, c'est de saigner ou de se faire saigner. Des broussards, voilà ce qu'ils sont. Il n'y a que ça dans ce trou. Cotta avait vérifié. Il était le seul à venir de là où il venait. Rien donc à voir avec les autres. Il n'avait rien en commun. Est-ce que lui serait parti sans être contraint, abandonnant la mer et le grand fromager et la rivière de Gros-Galets? Bien sûr que non. Tandis que c'était différent. Quelque chose lui disait qu'ils avaient débarqué à Petite Venise par fantaisie. Question de voir du paysage, de changer un peu d'air. Et puis, en y réfléchissant bien, il ne voyait aucune différence entre eux et la meute féroce qu'il avait acculée dans ce réduit. Est-ce que quelqu'un qui aurait une terre d'ancêtre dans les tripes pourrait seulement songer à priver un autre de la sienne? Il fallait donc penser que ceux qu'il avait dépouillés sans vergogne étaient comme ceux qu'il voyait autour de lui, et qui, malgré leur dénuement, n'avaient pas l'air d'être ici contre leur gré. C'était la même race, celle des oiseaux à serre. Et la bicoque s'emplissait soudain du silence dévastateur de leurs ailes déployées. À Petite Venise, il n'y avait que la bicoque où vivaient Cotta et les siens. Tout autour, rien que des ennemis. Alors, Nindia se mit à chanter.
Sur la route de Fougamou, que d'épines, bonnes gens. Sur la route de Fougamou, avant le fleuve. Sur la route de Fougamou, avant le fleuve, bonnes gens. Que d'épines, que d'épines. Sur la route de Fougamou, que de miel, bonnes gens. Sur la route de Fougamou, passez le fleuve. Sur la route de Fougamou, passez le fleuve, bonnes gens. Que de miel, que de miel.
Toujours Kota aura ce regard du travers qui ordonne à Nindya d'arrêter sa chanson.
Mais que peux-tu donc comprendre, femme, toi née pour quitter la tribu de ton père?
Et comme un jour Nindya lui expliquait qu'elle ne faisait que chanter ce qu'on lui avait appris à croire, Kota lui demanda.
Peux-tu me dire alors ce que tu crois?
Il ne faut jamais désespérer. Connais-tu une nuit qui ne finisse à l'aube?
Répondit tout simplement Nindya. Ces mots arrachèrent à Kota un ricanement. Nindya se crispa. Elle ne savait que trop ce que signifiait ce rire. Du temps d'avant les plantes qu'elle brûlait, elle n'aurait peut-être pas compris. Et maintenant, c'était différent. Kota ne divaguait plus. Certes, tout le monde à Petite Venise n'avait pas, comme lui, la bouche pleine de mots grossiers. Certes, chacun pouvait mesurer la dérision de sa hargne et voir en lui un chien qui aboie sans mordre. Mais personne ne savait dire qu'il ne voyait pas où Kota voulait en venir. Non, il ne divaguait plus. Ses gestes, ses mimiques n'étaient plus étranges. Il ricanait, et Nindya savait la signification de ce rire. Elle se crispa, désarçonnée par la cruauté de la flèche que Kota lui décochait.
« Mais ouvre donc les yeux, ouvre les grands sur ton ventre inutile. Là, il y a tout lieu de désespérer. »
Ne voyait-elle pas? Il dormait sur la même natte. Et il lui tournait le dos. Il bandait néanmoins. Il bandait dur. Qu'elle n'aille surtout pas croire le contraire. On avait dépouillé Kota de tout, mais il lui restait encore ça. La vérité est que Nindya était pareille à la terre aride. À beau semer, rien ne germait. Autant ne plus essayer. D'ailleurs, Kota songeait à prendre une deuxième femme, bien féconde celle-là. Une femme pareille à la terre donnant plusieurs récoltes. Mais il y avait toujours ce mais qui le faisait bifurquer et le ramenait à son point de départ, à la nuit sale, aux oiseaux à serre, à son village perdu. Était-ce par lassitude de toujours se retrouver là? Était-ce par douleur qu'il secouait parfois la tête, puis la prenait entre ses deux mains? Allons, du calme là-dedans, semblait-il dire alors au monstre grouillant en lui. Ne voulait rien entendre, ne pouvait pas, ces démons nés de l'ignominie de la contrée spoliée. Mais il fallait bien que Kota leur fasse échec. Il ne pouvait pas les laisser commettre tous les forfaits dont il les sentait capables. Il fallait bien que Kota soit raisonnable et qu'il se contrôle. C'est ce qu'il se disait sûrement entre deux hoquets quand son haleine empestait la bicoque d'une odeur de vinasse. Kota buvait pour endormir cette envie de crime, pour oublier, pour être raisonnable. De plus en plus, il s'attardait dans les arrière-salles illuminées de néons. Respirer l'odeur âcre de l'urine en baisant debout, vite fait contre un arbre. Revenir au comptoir pour cette autre tournée accompagnée de bourrades et de confidences.
« Pays la gaspiller, moi, dis-toi. Toi aveugle, moi aveugle. Et qui va guider l'autre? C'est comme directeur, leur dit-nous directeur. Pas connaître un peu, directeur quand même. »
Il resterait là encore des heures entières s'il n'était le besoin de s'appuyer sur l'épaule la plus proche pour ne pas s'écrouler à force d'être raisonnable. Forme hirsute dans la nuit, c'était un sinistré sur un radeau malmené qui accostait sur le rivage hostile des yeux d'Anka. Nindya devait-elle continuer à brûler les plantes qui ramassent et brident la raison? Se demandait Anka. Il haïssait la mère qui les brûlait et le père dont la seule présence lui faisait écarquiller les yeux. Pour qui se prenait-il pour le forcer ainsi à regarder? Comme s'il y avait autre chose derrière ce qu'Anka voyait. Et même s'il y avait autre chose, Anka ne voulait pas le savoir. Il ne leur avait rien demandé. Il y avait longtemps qu'il ne demandait plus rien à personne. Quand père reprendrait-il la mer? Quand serait-il à nouveau sur le chalutier? Chaque fois, il semblait à Anka qu'il s'écoulait une éternité avant que Kota ne reparte. Qu'il s'en aille! Qu'il prenne la mer et qu'elle l'emporte à jamais, qu'elle l'avale et ne le recrache pas. Mais quand le père était en mer, parti pendant 3 jours pêcher la dorade et la crevette, pourquoi le silence du soir devait-il encore et toujours se froisser? Au lieu de la paix, l'odeur nauséeuse du quotidien. C'était alors les femmes qui la soulevaient, ponctuées par leur façon particulière de taper des mains pour se lamenter. C'est fou ce qu'on pouvait se lamenter à Petite Venise. Il suffisait qu'Anka soit là pour qu'on exige de lui un constat. Ses voitures, au moins, à tout bout de champ, rien de plus irritant pour lui qu'il ne voulait justement pas voir. Mais Anka avait son haussement d'épaule. Il l'avait bien évidemment quand India lui demandait d'où venaient ces cris qui déchiraient Petite Venise. Anka haussait les épaules pour dire qu'il ne voulait pas le savoir. Comprenant tout autre chose, Ninja croyait qu'Anka voulait lui dire qu'il ne savait pas. Alors elle lui demandait d'aller voir. « Ce n'est rien. »«
Comment rien ?»«
Rien que les cris d'une femme qui pleure son enfant mort. » Et le visage de Ninja devenait le chagrin même d'imaginer la douleur de cette mère si semblable à elle. Elle voulait savoir pourquoi il ne se passait pas de semaine sans qu'un enfant meure à Petite Venise. Et elle se mettait à supposer. C'était à cause de l'eau. Oui, sûrement l'eau. Celle qu'on buvait à Petite Venise tuait. Les moustiques aussi, ceux qui infestaient le marécage. Et puis, comme les gens n'avaient pas d'argent pour payer le médecin, ça n'arrangeait rien avec toute cette eau meurtrière et les moustiques de surcroît. Anka haussait encore les épaules. Lui ne connaissait qu'une seule sorte de mort, celle bienfaisante qui répand le silence sur toute chose. Il se disait qu'elle vienne, cette mort-là, s'emparer de Ninja, qui veut le forcer à regarder avec d'autres yeux. Il haïssait toute parole, et Ninja ne cessait de lui parler, même quand elle se taisait. Anka la regardait au milieu des champs et du crissement des hochets. Elle était pourtant belle, en ces moments-là. Belle, dans son drap sans tache, avec les couleurs de l'arc-en-ciel sur son front, ses bras, sa poitrine. C'est que ce soir, on était encore venu louer la divinité des eaux, l'irascible Mumba, sourde comme pas deux et d'une jalousie dévastatrice. Par ses chants et ses hochets, Ninja la suppliait de lui rendre sa fécondité. Mumba voyait-elle? Cette pauvre femme lui disait qu'elle n'était pas sa rivale, mais seulement son humble servante, dont chaque acte ici-bas, s'il était glorieux, la glorifiait, elle qui règne. Mais pourquoi, même là, dans le recueillement, la mère devait-elle raconter? Elle lui disait qu'il était Anka, son unique, son tout seul, qu'elle tremblait de perdre à tout instant sous l'effet de l'eau, des moustiques et des autres prédateurs de Petite Venise. Anka la voyait se détériorer au fil des jours, de n'être plus tout à fait une femme, à cause de ce ventre pareil à la terre mauvaise, qui ne s'est donné qu'une seule récolte. Ce ventre qui consternait, et pour lequel tant de femmes venaient chanter et secouer les hochets, afin que Mumba daigne surgir du fond des eaux, magnifique serpent glissant sur cette détresse, soudain irisée comme un ciel après la pluie. Quand ces femmes revenaient à tout hasard prendre des nouvelles, immanquablement, c'était celle de ce ventre qu'elles exigeaient, afin de vanter l'habileté d'un guérisseur de leur connaissance.
« Je te dis, Ninja, tu devrais l'essayer !»«
Tu crois ?»
« Puisque je te le dis, avec celui-là, tu sauras même qui mange ton ventre. »«
Ah !»
faisait Ninja, accompagnant Samu d'un geste qui, tout en voulant minimiser l'importance qu'on donnait à ce nouveau guérisseur, ne trahissait pas moins son agacement.
« Si je devais écouter tout ce qui se dit à propos de mon ventre, je ne parlerais plus à personne. »
ajouta-t-elle.
« Non, pas celui-là »
s'entêtaient les femmes qui, pour plus de persuasion, étalaient les exploits reconnus de leur nouveau guérisseur.
« Comme on te le dit, non seulement il voit et dévoile, mais il a la main. Il soigne, ma sœur, il soigne bien !»
Ninja voyait parfois dans la sollicitude témoignée à son ventre une certaine suffisance mêlée d'un besoin de comparer et de se rassurer.
Somme toute, quelle délectation de savoir qu'il y a encore plus désespéré que soi. Ça ne change pas grand-chose, mais aide tout de même à mieux supporter.
Plutôt donc l'humiliation de l'homme insulté, berné, écrasé, et qui rejaillit comme par ricochet sur la femme qui se débat sous la poigne de l'époux. Plutôt le vide. Plutôt se retrouver de l'aube au crépuscule, l'éternel perdant, puisque dans ses enfants, il y a l'espoir de tout conquérir encore. Sur le ventre de Ninja venaient s'apaiser les souffrances de celle qui avait pour toute opulence une progéniture. Mais Ninja ne s'en irritait pas. C'est qu'elle partageait avec tout ce monde la conviction que quiconque n'a qu'un enfant, n'a rien. La voilà qui chantait de nouveau la route de Fougamou, au bout de laquelle le miel abonde. Parfois, Elle demandait à Ancas si, comme son père, il trouvait sa chanson stupide.
Ancas lui répondait qu'il n'y trouvait rien.
Alors, elle lui expliquait, doucement. Elle lui disait qu'elle était pareille aux voyageurs sur cette route qui mène au miel. Elle aussi allait faire un voyage, mais dans la région des Grands Lacs, dans les pays aux eaux calmes où le remède est profusion. Ancas comprenait-il maintenant pourquoi elle continuait à escalader les collines chaque matin alors que Kota pouvait à présent soutenir le toit? C'était pour épargner l'argent qui permettra son départ. Elle ira dans les lacs dès qu'elle se sentira prête. Elle ira là-bas trouver l'herbe qui guérit. Aussi vrai qu'elle s'appelait Nindia, les lacs se devaient de lui rendre son ventre de femme, pareil à la terre bonne donnant plusieurs récoltes. Dans l'immobilité, Ancas voyait bien que père et mère triomphaient de lui. Il l'obligeait à braquer son regard dans les encoignures de ce réduit à rat et le contraignait à convenir de l'exactitude de leur obscène inventaire. Ancas se mit à haïr la bicoque, basse, sombre, penchée dans la moiteur, comme en révérence devant le marécage, que ne pouvait-elle être seulement coin de natte où il trouvait le sommeil. Il aurait voulu ne s'y engouffrer que pour attendre, confiant qu'un autre jour se lève. Mais c'était compté sans la présence de ceux pour qui la nuit n'était pas faite pour dormir. Il haïssait la nuit où la paix venait s'effilocher. Il disait qu'elle ne lui appartenait pas. Elle ne pouvait pas lui appartenir, mais plutôt à ceux qui se levaient avec le chant des coqs. Elle revenait de droit à ceux qui cherchaient le sommeil perdu quelque part, ainsi que l'essentiel qui ferait d'eux des hommes et des femmes. Ancas, lui, ne cherchait rien, sinon seulement à se prouver que rien d'essentiel ne lui faisait défaut. Il entrevoyait la blessure béante dans chaque propos d'adulte, et lui, qui n'ignorait pas ce qu'être blessé voulait dire, détournait la tête et contemplait petite Venise, son ailleurs sans aucune case en terre battue que lui offrait chaque matin qui s'installait.